réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel sur France Culture tous les matins de 6h à 6h30. Nous sommes le vendredi 18 décembre et depuis lundi, l'historien Thomas Negaroff nous raconte le contexte politique de la guerre des étoiles. Dans un instant, le cinquième et dernier épisode à la recherche du père. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et ce vendredi, j'ai l'extrême privilège de recevoir Philippe Guéluc, qui nous fait l'amitié d'être très fidèle et de revenir à chaque sortie d'album du chat. Le chat fait ses petits, c'est le 20e album, toujours édité chez Casterman. Il sera avec nous aux alentours de 6h15. Que la sagesse soit avec nous, aujourd'hui plus que jamais. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est parti.
Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars.
Here they come. Coming in too fast!
The story of a boy, a girl, and a universe.
La guerre des étoiles, une série avec l'historien Thomas Negaroff, spécialiste des questions géopolitiques et des États-Unis, auteur de Je suis ton père, la guerre des étoiles, l'Amérique et ses démons. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, une nation orpheline de ses pères, justement, Thomas Negaroff.
Bonjour.
Bonjour, et c'est ce que raconte la saga. Depuis le début, là. Depuis le premier épisode.
Oui, et c'est certainement là le point de contact le plus fort entre la saga et l'histoire profonde des États-Unis. Je m'explique, c'est assez simple, mais on avait montré lors du premier épisode à quel point le traumatisme du Vietnam avait été fort, qu'il dessinait une nation orpheline de l'image forte de l'homme viril. C'est ce que l'historienne du cinéma américaine Susan Jeffords appelle la dévirilisation, qu'elle retrouve dans le cinéma américain d'ailleurs, le cinéma américain des années 70, tel que l'a montré Peter Biskind dans Le Nouvel Hollywood. C'est un cinéma où les héros sont complexes, c'est Bonnie and Clyde, on est parfois du côté du méchant, les héros sont beaucoup moins omniprésents et omniscients, ils n'ont pas toutes les forces potentes possibles. On est sorti du cinéma des années 50-60, c'est un cinéma beaucoup plus complexe, d'ailleurs où les réalisateurs ont pris le pouvoir un peu sur une parenthèse enchantée, où les réalisateurs ont pris le pouvoir sur les scénaristes, et c'est un peu à ce moment-là qu'apparaît Lucas, même si Biskind est très très dur envers Lucas et Spielberg. Il dit qu'ils ont tué le nouvel Hollywood, et vous allez voir pourquoi il dit ça. Donc on est dans un contexte de dévirilisation défini par Susan Jeffords, et elle évoque, elle, les années 80 comme une forme de remasculinisation. Et elle, qui travaille sur le cinéma, elle dit, regardez, les héros des années 80 ne sont plus du tout les mêmes que les héros des années 70.
C'est vrai.
Voilà, c'est Rambo, c'est Rocky, c'est Terminator, c'est des héros, des super-héros finalement, hein, quasiment au sens propre du terme. Mais d'ailleurs, c'est intéressant comme on retrouve aujourd'hui au cinéma cette vague de super-héros qui peut-être en dit long sur l'évolution de l'Amérique d'aujourd'hui, qui a besoin peut-être d'une figure comme ça, héroïque, pour se sauver. Mais revenons aux années 70-80. Et ces années 80, finalement, l'arrivée au pouvoir de Reagan, ce cinéma hollywoodien très testostérone, mais aussi où on montre une image de l'homme qui s'est renforcée. En fait, on a refermé la parenthèse du Vietnam. Cette parenthèse où l'homme blanc, l'homme américain avait failli, où il y avait des vraies interrogations très fortes sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un père. C'est des années aussi où le taux de divorce aux États-Unis se développe, où les pères ne sont pas à la hauteur, dit-on à l'époque. Et Reagan arrive avec un discours extrêmement fort qui, en gros, la famille, les valeurs familiales, c'est un peu travail, famille, patrie, Reagan. Le travail, la famille et la patrie. Alors, c'est pas bien sûr Vichy, mais il y a ce corpus idéologique très fort, et la famille, c'est un père. Un père à sa place. C'est-à-dire un père qui assume les responsabilités
et l'autorité.
Du père et l'autorité. Et lui se présente comme une sorte de père de la nation. Et Reagan arrive au pouvoir avec, en plus de cette dimension de père biologique, l'idée que l'Amérique doit retrouver sa vraie nature, celle des pères fondateurs. Et il y a un jeu sur le père qui est extrêmement fort dans la rhétorique de Reagan et qu'on retrouve évidemment dans La Guerre des Étoiles.
Parce que d'une autre manière.
Hein. Et voilà, oui, sauf que, et c'est là que Biskind est très dur avec l'œuvre de Lucas, c'est qu'il considère que l'œuvre de Lucas, elle a préparé la révolution réaganienne. Pas uniquement par le mal, mais parce qu'elle est ultra réactionnaire. Parce que quand on regarde bien l'histoire de La Guerre des Étoiles, notamment la première trilogie, celle des années 70-80, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune garçon, Luke Skywalker, qui ne sait pas qu'il a un père, mais qui va presque inconsciemment lutter contre le mal et en réalité rechercher son père. L'histoire des trois épisodes, c'est la quête d'un petit garçon qui cherche son père. Et dans le deuxième épisode, qui est en fait l'épisode 5, c'est un peu technique, un peu compliqué, mais c'est l'épisode 5, celui de 1981, vous avez cette scène très très célèbre où Dark Vador dit « Je suis ton père ». Mais à ce moment-là, ça ne résout rien, parce que Dark Vador fait cela, c'est une sorte de coup pour amener Luke du côté obscur. Il se sent pas vraiment le père. C'est seulement à la fin de l'épisode 6 que là, il est véritablement le père, quand il a un geste de père, savoir qu'il va tuer Palpatine au moment où Palpatine voulait tuer Luke. Et donc là, il va tuer pour sauver son fils, et c'est une scène importante, puisqu'à ce moment-là, vous avez le père qui dit à son fils qu'il le croit vraiment, qu'il le sent vraiment, qu'il est son père, et le fils qui reconnaît qu'il est le fils. C'est assez confucéen, hein. Quand le père est le père et le fils est le fils, l'ordre règne, mais c'est aussi très conservateur, notamment parce qu'en plus, les filles n'ont pas voix au chapitre. Il y a quand même une sœur jumelle de Luke qui s'appelle Leia. Elle n'a même pas le droit de s'appeler Skywalker. Et il n'est même pas question qu'elle ait la force en elle. C'est qu'un truc de père en fils. Et ce qui est intéressant dans la saga, c'est que en quelques minutes, dès que le père est le père et le fils est le fils, l'ordre revient dans le cosmos, dans la galaxie. En quelques instants, quasiment, l'histoire se termine et c'est terminé. Et voilà où on en est à la fin de l'épisode 6 qui clôt la première trilogie. À l'époque, on pensait qu'il n'y en aurait peut-être pas, évidemment, de seconde.
Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luke, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Mais alors, Thomas Negarov, si je suis votre analyse de cet épisode, de cet ultime épisode, La Guerre des Étoiles, c'est un film plutôt conservateur ?
C'est alors on a beaucoup manié cette dimension de contradiction ou de paradoxe dans l'œuvre de Lucas, mais oui, oui, oui et encore oui, La Guerre des Étoiles, je le prétends et je le démontre, je crois, est une œuvre réactionnaire, une œuvre conservatrice, notamment sur les valeurs familiales qui sont le socle.
Mais on démarre cette série en disant que film qui représente la contre-culture d'une Amérique qui a complètement changé au sortir de la guerre du Bourbier vietnamien plus tôt. Mmh. Et là, vous nous dites exactement le contraire à la fin de la série.
Non, c'est pas exactement le contraire, mais c'est vrai, il y a pas que Reagan qui a compris la contradiction apparente et qu'on pouvait jouer sur cette contradiction. C'est pas une contradiction, il y a la réalité d'un discours qui est un discours très paternaliste où le père doit jouer son rôle de père, et quand il joue son rôle de père, l'ordre règne. Et ça, c'est au cœur de The Moral Majority qui a porté Reagan au pouvoir, c'est au cœur de la rhétorique reaganienne des années 80, et c'est aussi au cœur du cinéma de George Lucas, parce que n'oublions pas l'un des précédents films de Lucas, qui est American Graffiti, qui est une espèce d'ode des années 50, qui donnera Happy Days, hein, vous voyez, les années 50, c'est une Amérique où les choses étaient à leur place, il y a quelque chose d'extrêmement conservateur aussi dans le cinéma de Lucas, et je crois effectivement que à ce titre, La Guerre des Étoiles, et c'est un des grands paradoxes peut-être, après préparer la révolution réaganienne, que il a redonné Et c'est aussi pour ça que ce film a marché avec les enfants aussi. Il y a, vous savez, les enfants sont assez réactionnaires. Hein, quand, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les enfants aiment l'ordre, hein, aiment quand le papa crie, aiment quand là. Il y a quelque chose de très réactionnaire, en tout cas chez les enfants américains de ces années-là. Et beaucoup d'études ont montré à l'époque, de sociologues ont montré que l'Amérique des années 70, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'Amérique des années 70
voulait enterrer les révoltes et les velléités de liberté des années 60.
C'est un peu ça. Et il a pratiquement mis la dernière vis sur le dernier clou sur le cercueil de cette vague progressiste et libérale des années 60. C'est à ce titre que cette œuvre marque une vraie rupture, et c'est pour ça que Peter Biskind, dans le Nouvel Hollywood, en veut énormément à Lucas. Non seulement parce que il a refait un cinéma pour les enfants. Je relisais les chroniques de Pauline Kael, vous savez, la grande critique de cinéma, et elle disait, en fait, quand elle a parlé en 77 du premier épisode, elle dit, oui, c'est un film qui est pas mal, qui est bien fait, mais c'est surtout un film qui donnera envie aux gens qui le regardent de redevenir pour toujours des enfants. Et ça, c'est très intéressant, c'est que alors que c'est une saga qui dit beaucoup, qui a des grandes références mythologiques, philosophiques extrêmement intéressantes, c'est aussi une fable pour les enfants, La Guerre des Étoiles. Et cette fable pour les enfants, c'est une fable qui est, je suis désolé, mais réactionnaire, parce qu'elle dit que le père doit jouer son rôle de père, parce qu'elle dit que les filles ont des rôles subalternes et secondaires, parce qu'elle raconte aussi une histoire de l'Amérique de la fin des années 70, une Amérique qui avait perdu les pères et les repères, parce que c'est une Amérique qui avait perdu au Vietnam, parce que c'est une Amérique qui avait vu le président Richard Nixon, qui était une sorte de père, un père pour la nation, qui avait vu un père mentir et démissionner au moment du Watergate. Ce que Lucas a fait, c'est qu'il a remis les choses à leur place. Il a, en tout cas selon lui, il a redonné aux Américains des repères forts. Et parmi ces repères forts, il y a la figure paternelle sur laquelle va surfer Ronald Reagan et la révolution conservatrice.
Alors, mais pourquoi ça nous plaît? Pourquoi ça plaît au-delà de l'Amérique, ou même au-delà du monde occidental, La Guerre des Étoiles, Thomas Negaroff?
Peut-être qu'on a au fond de nous aussi hein, cette espèce de réflexe conservateur et cette recherche permanente du père. Ça interroge chacun d'entre nous. Non, c'est parce que je crois que La Guerre des Étoiles, c'est magnifiquement bien fait. Parce que comme tout mythe, ça raconte une histoire individuelle. On peut le regarder comme une épopée, hein, effectivement, du bien contre le mal. Donc on est sur des valeurs assez simplistes, finalement. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien dans l'imaginaire de tous. Et puis, y a différentes lectures, mais on est quand même sur des grands aspects de la mythologie contemporaine, de grandes philosophies occidentales, même s'il y a, ça emprunte beaucoup aussi la philosophie orientale. Mais je crois qu'on est, quand on regarde La Guerre des Étoiles, la Guerre des Étoiles nous regarde aussi, et finalement elle nous inquiète pas trop. C'est-à-dire que on regarde un film en sachant, et c'est ce que Pauline Kael raconte aussi dans ses chroniques, hein, je vous invite à lire les critiques de ce film, mais elle dit finalement que c'est une aventure, mais on sait que ça finira bien. C'est ça aussi qui dessine peut-être, au-delà de ça, un destin pour les États-Unis et peut-être bien davantage pour les démocraties, qui nous rassure peut-être, c'est qu'au final, le bien l'emporte sur le mal.
Est-ce que le héros américain a évolué ?
Je crois pas. Je crois que ça reste un héros fort, masculin. La parenthèse des années 70 a un peu disparu. Non, je crois que le héros reste celui qui peut vaincre tous les démons, et on sait que, et on l'a montré ensemble, que les démons sont nombreux aux États-Unis.
Même dans le jeu vidéo.
Et le jeu vidéo a été d'ailleurs complètement, oui bien sûr, même dans le jeu vidéo. D'ailleurs, La Guerre des Étoiles a une suite, une vie extrêmement rentable sur les jeux vidéo. Donc là aussi, La Guerre des Étoiles a essaimé.
C'est le thème de notre série de la semaine prochaine, les héros dans les jeux vidéo. Merci beaucoup Thomas Negaroff, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des questions géopolitiques et des États-Unis, et que votre dernier ouvrage paru concerne La Guerre des Étoiles, Je suis ton père, La Guerre des Étoiles, l'Amérique et ses démons, c'est édité chez Naïve. Merci beaucoup.
Merci.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Quand il fait froid et que le moral est à plat, on est vraiment content de retrouver quelques vieux rituels. Je ne parle pas de la dinde au marron, et des beaux-parents pas du tout marrants, mais du chat
le chat belge et du père Guiluc qui me fait l'amitié de passer me voir avec ses cadeaux sans passer par la cheminée comme à chaque fois que le chat fait des petits. Bonjour Philippe Guiluc.
Bonjour Tefik, bonjour à tous.
Bah, c'est devenu vraiment un rituel, dites donc.
Bah oui, il y a trois personnages qui reviennent comme ça en fin d'année. C'est Père Noël le 24 décembre, Saint-Nicolas dans le nord et dans le nord-est le 6 décembre, et puis moi-même un petit peu plus tôt.
Avec une concurrence déloyale, celle de la guerre des étoiles. Est-ce que le chat aime la guerre des étoiles, hein, Philippe Guiluc ?
Non, alors figurez-vous que lui n'en sait rien. Enfin, il est parfois dans la lune. Il essaye d'être un soleil qui éclaire ses concitoyens. Mais moi-même, je vous jure que c'est vrai, vous me croirez pas, mais je vous jure que c'est vrai, je n'ai jamais vu la guerre des étoiles, 1, 2 ou 3. C'est un univers qui m'est totalement étranger.
Et vous n'avez jamais été tenté par ce phénomène qui est en train de traverser les décennies maintenant ?
Eh bien, visiblement non. Vous savez, parfois on peut passer à côté, c'est comme un astéroïde qui frôle la Terre. Heureusement, il le prend pas, hein, on se le prend pas en plein dans la poire. Quoique, ça résoudrait définitivement beaucoup de problèmes. Mais non, moi c'est comme ça, c'est un univers parallèle. Et je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'intéresser à ça.
Et d'une manière générale, à la science-fiction, si, quand même.
Pas trop. À la science, à la fiction, mais dès que les deux sont ensemble, ça me parle moins. Déjà, 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, ça m'avait un petit peu laissé froid. Donc vous voyez, je suis pas un bon client.
Philippe Guiluc, c'est le 20e anniversaire du chat, c'est ça ?
Non, c'est le 20e album. Ça va être le 33e anniversaire de la naissance du chat au mois de mars 2016. C'est le 20e album. Mmh. Et cette année, c'est mes 40 ans de carrière.
Oula !
Donc ça fait beaucoup de chiffres à retenir.
33, ça me dit quelque chose.
Oui, c'est l'âge... Alors on ne sait pas.
Mais on est rattrapé par toutes les religions en ce moment.
Absolument. Non, mais oui, 33, c'est l'âge où Jésus est monté sur les planches. Mais le chat y est monté bien avant, sur les planches de BD.
Et c'est bien sûr un coffret. Bah, il est désormais annuel, ce coffret. Il tombe à pic, justement, pour Noël. Avec les trois mini-albums. Il y a le demi-format et ouais, deux quarts de format. Cruchy Préchat et le Scrap du dimanche pour les quarts de format. Et les dessins du chat avec un E. Faut bien le préciser, ma première question, Philippe Guiluc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui nous échappent parce que vous vous posez des questions, des questionnements nouveaux ?
J'ai hélas, ces jours-ci, la réponse à des questions que je me pose depuis très longtemps. Je me dis, mais le monde devient fou, on le sait. Beaucoup de générations l'ont dit en disant c'était mieux avant et puis là on est dans... Non, on est le 20e siècle a été sordide pendant de longues années et le 21e commence très mal. Cela dit, des gens magnifiques, j'en connais tellement et des gens qui font le bien autour d'eux, il y en a une grande majorité. Donc la réponse à ces questions arrive, ces questions que je me pose sur le... Je me dis comment dans ce monde tellement immoral, tant sur le plan de la finance internationale que de la pollution, que de la course au profit effréné, que de l'évasion fiscale, que de l'immoralité publique, comment dans ce monde il n'y a pas eu plus de gens qui sont devenus fous, qui ont pris une arme pour tirer dans la foule ? Je ne parle même pas là de fanatiques se battant au nom d'une religion qu'ils salissent plutôt qu'ils ne défendent, mais simplement, et d'ailleurs on le voit sur des campus aux États-Unis, tout à coup un type devient fou et tire dans la foule, sur des étudiants, sur des enfants, sur n'importe qui. Ce monde anxiogène provoque ce genre de réaction, donc imaginez que si ces réactions sont manipulées, sont orientées auprès d'esprits faibles, les ravages que ça peut faire.
On est dans un monde de plus en plus quadrillé, on est de plus en plus surveillé. Est-ce que on n'a pas finalement décidé de laisser un peu de côté nos libertés ou nos envies d'un monde plus libre pour se défendre, pour se protéger.
Pour se protéger. Vous savez, moi, depuis, c'est quelque chose qui est admis, par exemple, dans les aéroports depuis de nombreuses années. On passe le contrôle, le scanner, etc. Est-ce qu'on a l'impression que nos libertés sont reniées ? Moi, je trouve pas. En revanche, la liberté, pour moi, se situe ailleurs. Elle se situe dans l'expression des idées, dans le débat qui peut être libre, dans la critique du pouvoir politique, comme nous en bénéficions de cette liberté d'expression chez nous. Le chat disait un jour, tant que les journalistes peuvent dire que tout va mal, c'est le signe que tout va bien. Ça, c'est sur la liberté d'expression.
Et le chat dit aussi que depuis 1967, la planète a deux fois plus de monde.
Oui, la population mondiale a doublé.
A doublé, mais on devrait avoir donc logiquement deux fois plus de génies. Et finalement, lui, ce qu'il dit...
J'ai l'impression qu'il y a surtout deux fois plus de connards.
Voilà. Oui, voilà. Par exemple, tout finit chez vous, pas par une chanson, mais par un gag.
Par un gag ou par une réflexion. Amusé ou terrifié. Parce que ce constat des connards, ça nous fait rire. Mais si on y pense au pied de la lettre, c'est glaçant. Parce que c'est un petit peu l'image de la réalité. Maintenant, est-ce que les génies, qui devraient être deux fois plus nombreux, vont arriver à trouver la solution pour un monde meilleur? Nous l'espérons. Est-ce que les scientifiques vont trouver un moyen de pas aller dans le mur en termes de pollution de l'eau, de l'air et des sols? Nous l'espérons. Mais nous commençons à ne plus trop y croire.
Est-ce que vous pensez que les prochains albums du chat ou les prochains coffrets du chat, Philippe Guilluc, seront marqués par ce qu'on vient de vivre?
Oui, inévitablement. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de dessins par le passé qui sont tristement d'actualité. Je ne suis pas un dessinateur de presse au sens où je commenterai l'actualité au jour le jour. Mais je la commande avec un peu de distance et de façon plus globale. Et donc les grands thèmes, je les traite, je les ai traités. Je n'ai rien retiré depuis les attentats de Charlie, j'ai fait ce livre, et je n'ai rien retiré de ce que j'avais dessiné avant, de ce que j'ai continué à dessiner après. Je vais toujours taper sur les intégristes, je vais toujours critiquer les religions, je vais continuer à dessiner les ignominies qui me révoltent. Donc les prochains dessins incluront évidemment cette période sordide dans laquelle nous sommes, mais je ne vais pas non plus faire un livre sur cette période. Ça fait partie de mes préoccupations, de mes angoisses, de mes indignations, et j'en fais part à travers mon art.
Il y a un côté intime, pas intimiste, parce que ça c'est depuis le début, mais il y a un côté où le chat devient... au centre d'une famille. La famille est présente, ne serait-ce que par vos dédicaces, Philippe Guilluc.
Oui, alors il y a trois albums dans le coffret, et cette année, en 2015, j'ai trois petits-enfants. Ça risque de changer l'année prochaine, et l'année après, il risque d'en avoir quatre, et puis cinq, etc. Je ne vais pas multiplier les albums dans le coffret. Et je me suis dit, trois petits-enfants, trois livres, j'en dédie un à chacun, évidemment. Et puis j'ai fait poser le chat en famille sur la couverture. Il est là avec sa femme et ses trois enfants. Et parmi ses enfants, il y a deux chatons et un chien. Et donc on se demande si le chien est vraiment de lui, parce qu'il ne lui ressemble pas physiquement comme les deux autres.
Merci d'être venu, maintenant on passe au questionnaire d'un autre jour. C'est parti, Philippe Guilluc ce matin. Première question,
au hasard.
Hein. Ah, au hasard, bien sûr.
Bien sûr. Zut, elle est à l'envers. À qui pensez-vous le plus en ce moment? Ah ben, c'est pas un enchaînement, mais c'est le hasard à mes petits-enfants. Et je me dis déjà, quand nous avons fait des enfants, ma femme et moi, il y a 33 ans, on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de mettre des enfants au monde dans une société aussi désespérante? Parce que déjà à l'époque, je me posais la question. Beaucoup en termes de pollution. J'avais été alerté par un grand écologiste français qui s'appelait René Dumont, qui dans les années 70 nous alertait sur tous les problèmes qui se posent maintenant. Il tirait les sonnettes d'alarme, personne ne l'a écouté, et il prédisait tout ce qui est en train d'arriver. Je me posais la question pour mes enfants, vous imaginez que je me la pose davantage encore pour mes petits-enfants. Qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde dans lequel s'épanouir? Voilà, je suis pas très optimiste.
Deuxième question. Quelle ambiance, c'est la première fois que Philippe Guilluc dit « je ne suis pas optimiste ».
Oui, mais c'était, mais enfin, en même temps, je vous réponds...
Vivement l'année prochaine, je vous réponds, encore quelques jours.
Bah oui. Je vous réponds avec sincérité en
bah
même
oui,
temps.
Bah oui, bah je vous vois.
Deuxième question, c'est quoi pour vous une bonne odeur du matin? C'est le café. Alors là, il n'y a rien de plus magique que l'odeur du café quand on descend. Alors surtout si on est dans un hôtel au fin fond d'une province, n'importe où, ou à Venise, ou n'importe où. On arrive dans la salle du petit déjeuner et il y a cette odeur de café. C'est juste magique.
Enfin, troisième question.
Hop. Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie?
Ah,
c'est drôle ça. Ah, oui. Parce que je signale aux éditeurs qu'il y a quand même une petite 15, boîte avec
voilà, 15 questions.
15 questions et je tombe sur celle-là. J'ai énormément de sympathie pour le capitaine Haddock.
Oh,
dans les aventures de Tintin, ouais. C'est Tintin le héros évidemment.
Bien sûr.
Et je trouve que c'est Haddock qui remporte la mise. Il est tellement humain, il est tellement. Et d'ailleurs, je crois qu'il était lui véritablement à l'image de Hergé. C'est-à-dire que tous les démons qu'il habitait,
il les
projetait voilà dans Haddock. Et c'est le personnage parce qu'il est drôlissime, il a du recul sur les choses, il est très alcoolique, il est maladroit, il est truc. Enfin, il a tout. C'est un grand personnage de comédie.
Dans Le Chat fait des petits, Tintin rencontre le chat.
Oui.
Et le chat. C'est Tintin qui demande à rencontrer le chat, on le devine, pour avoir l'autographe. Ouais. Et le chat, très généreux, qui lui dit « Oui, c'est à quel nom ?» Et vous osez faire ça alors que vous êtes édité par Casterman, c'est-à-dire, autant dire, Moulinsard édition.
Oui, enfin non, c'est-à-dire que... oui,
c'est l'éditeur de Tintin.
Oui, absolument, c'est l'éditeur historique de Tintin. Et
vous êtes arrangé avec Moulinsard
très...
ou...
Ah oui, non, évidemment, je suis très très ami avec Moulinsard et très admiratif.
C'est très drôle.
Je l'ai dit 10 milliards de fois comme Hergé a marqué ma vie et sans doute mon œuvre, mais c'est un clin d'œil. Mais les clins d'œil doivent être insolents, évidemment. Ce serait absolument ridicule d'être juste en dévotion face à l'autel de l'œuvre de Hergé, donc qui aime bien châtie bien.
Merci d'être venu. Merci pour ce coffret 20e album du chat, Le Chat fait des petits. Merci pour le dessin que vous nous faites là en ce moment, spécialement pour l'émission Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, à la page d'Un autre jour est possible. Générique par notre invité, Philippe Guéluc.
C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Une émission de Tefik Hakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvres pâteaux peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, émission réalisée par Thomas Duterre avec ce matin à la technique.
Élise-le. Voilà.
Quel joli nom.
Bah oui, et la personne aussi, d'ailleurs. Bon, la semaine prochaine, on se retrouve et ça sera toute une semaine consacrée aux super-héros. C'est Noël, hein, la semaine prochaine.
Ah bah oui.
Et pour les super-héros, dans Un autre jour est possible, nous, on fera les super-héros dans les jeux vidéo. Il a été récupéré par l'industrie des jeux vidéo, le chat.
Non, pas encore.
Vous qui faites plein d'applications avec le chat, non. D'ailleurs très réussi.
Il y a toujours cette appli sur smartphone.
Très réussi, voilà, c'est vraiment
technique
bien.
Technique confondue, toute marque confondue, elle est gratuite et j'y poste un dessin inédit chaque jour.
Alors, votre super-héros, Philippe Guéluc, pour terminer.
Super Dupont. C'est le meilleur de tous et en ces moments difficiles pour Paris et la France, je crois qu'on a besoin de lui.
Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes sur France Culture et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. On vous remercie. Dans un instant, l'actualité, le décryptage des informations. Dans un instant, sur France Culture. À lundi. Bon week-end.